Alors, messieurs les commissaires, évidemment, un sommet historique qui s'est soldé par des poignées de main à répétition et des signatures entre Donald Trump et Kim Jong-un.
Hey, c'est le sujet du jour, mon cher Paul.
Oui, oui, oui.
L'influence
oui.
communication nous l'a bien dit. Mais écoute, il y a quand même, on est obligé de reconnaître qu'il y a un accord. Tu sais, je lisais le texte du communiqué, enfin un accord qui est très simple. Je lisais ça là, parce que Le Monde l'a publié. Et là-dedans, il y a deux choses essentiellement. Parce que au bout du compte, tu dis, ce sommet, c'est un tel battage médiatique, c'est sur toute la planète. Il faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un contenu. Le contenu, essentiellement, ce que je comprends, c'est que les États-Unis garantissent la sécurité de la Corée du Nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'ils arrêteraient de faire des essais militaires, si j'ai bien compris, des exercices militaires qui déplaisent à la Corée du Nord. En contrepartie, puis là, les termes sont assez forts, il y aurait un engagement, et c'est marqué ferme et indéfectible, à une dénucléarisation complète de la Corée du Nord.
Mais
c'est
ferme et indéfectible, c'était pas les mots que les États-Unis recherchaient. C'était vérifiable et irréversible.
Effectivement, on viendra à la critique de ces termes-là.
Oui,
oui.
Non, mais les mots sont importants parce que c'était vérifiable et irréversible.
Et irréversible.
Puis là, c'est ferme et indéfectible.
Ouais, c'est pas banal changement de mots-là. Puis, la dernière chose que j'ai notée dans ce communiqué, qui est le projet, c'est une mise en œuvre totale et rapide des dispositions de cette déclaration commune. Ça, c'est du beau langage diplomatique pour dire, mais qu'est-ce qui va se passer dans les faits? Dans les faits, on comprend que la Corée a fait de nombreux gains. Le premier étant de rencontrer le président, comme tout le monde le dit, effectivement. Le deuxième, c'est qu'il y aurait un arrêt des exercices militaires américains. Puis le troisième, ce serait quoi le troisième? Il n'y en a pas de troisième. De leur côté, les États-Unis procéderaient, puis là, c'est pas spécifié dans quel calendrier. Parce que ce que j'entendais, c'est que pour dénucléariser, ça prend de nombreuses années juste pour arrêter les essais nucléaires, s'organiser avec le matériel atomique. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ensuite, donc, le temps, là, est important. Ça peut prendre facilement 10 à 15 ans avant d'arriver vraiment à ce qui est tout ce qui est mis en œuvre pour qu'il y ait une bombe nucléaire, ce soit démantelé sous l'observation évidemment d'une agence internationale. C'est ça.
Ouais. Mais l'observation d'une agence internationale, ça c'est le caractère vérifiable.
Mais c'est pas marqué nulle part pour le moment.
Disons que l'entente est dans des termes généraux. Là. Ils avaient remarqué que les Américains avaient baissé les attentes de dire c'est une première rencontre, on peut pas penser qu'on va tout régler. Donc, on peut dire que l'accord est à la hauteur de ses attentes réduites, de ses attentes modérées. Je veux dire que comme Canadien, quand on regarde ça, c'est dur de ne pas être sceptique. Là.
Oui.
Parce que tu regardes, les États-Unis sont notre voisin, tu regardes les intérêts communs qu'on serait censé avoir, tu regardes la façon dont il nous a traités puis qu'il a traité notre premier ministre. Puis il est rendu avec un des dictateurs de la planète. Bon, je ne serais pas... On comprend qu'on veut la paix dans le monde.
Là. Il dénonçait Obama pour son ouverture sur Cuba en parlant d'une dictature qui emprisonne au nom de la liberté, en fait, qui veut empêcher la liberté d'expression et la liberté de penser.
Ouais.
Ouais. Il plante Cuba puis il s'en va faire un meeting avec...
Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que ce sont les États-Unis qui agissent ou est-ce que c'est Trump personnellement qui fait un show pour, semble-t-il, qui rêve d'avoir le prix Nobel? Parce que ça, c'est l'autre bout. Là, on a l'impression que c'est une politique... Très personnel de Trump, puis ça l'intéresse vraiment, ça le stimule vraiment, sachant que ça va être un gros show, ça va être un moment, une espèce de moment historique, forcément. Là,
Il fait des gains. Il fait des gains au niveau électoral chez lui. Ça, c'est un gain majeur. L'autre.
Mais c'est curieux. C'est pas si j'étais l'Américain raisonnable, là.
Ouais.
Je serais pas si fier que ça, si heureux que ça, que. Mon président soit parti en chicane avec le voisin qui est le Canada, qui est une démocratie libérale avec qui on a des échanges économiques, puis qu'il soit rendu chummy avec le dictateur
oui,
à l'autre bout du monde. Là.
Écoute, il faut mettre les choses en perspective. Le sommet du G7, puis ce qui s'est passé, c'est relativement modeste par rapport à ce qui s'est passé hier.
Dans l'imagerie populaire, ben, t'as
oui.
raison.
Dans l'imagerie. Sur la scène politique internationale.
Alors que dans la réalité, pour moi, c'est pas si clair que ça.
Ben, c'est pas plus grave, mais en fait, c'est le caractère totalement imprévisible de ces deux leaders-là. Il y a personne qui croit que Trump va garder sa parole dans quoi que ce soit, parce qu'il change d'idée constamment. Un tweet contredit un autre tweet. Et la même chose pour Kim Jong-un, qui personne ne croit parce qu'il s'est engagé plusieurs fois puis il a jamais respecté ses engagements. Donc, on a un engagement qui devient la nouvelle mondiale à partir de deux personnes pas fiables. Comment peut-on se fier à l'entente? Mais là, au niveau diplomatique, ce que j'entendais qui ne m'apparaissait pas faux, c'est de dire c'était a talk to talk, c'est-à-dire une rencontre qui permet de désamorcer ce qui était une chicane. Autrement dit, tu te rends compte en sachant que tu vas te rencontrer encore, mais tu viens d'ouvrir une place où tu te parles.
Il s'est passé quelque chose.
Il y a quelque chose d'incontestable là, même si on l'aime pas, le Trump.
Parce que, je veux dire, la Corée du Nord, c'était un régime où on savait pas trop ce qui se passait. Ce qu'on savait, c'est qu'il préparait des essais de missiles, puis tout ça, puis qu'il développait des missiles de plus en plus forts en termes de portée, avec l'arme nucléaire dessus. Donc, c'est une avancée réelle là, qu'on ait un dialogue avec les États-Unis. C'est juste que il y a quelque chose de bizarre et démesuré, c'est-à-dire... En fait, on en vient à l'impression que le président Trump s'entend mieux que les dictateurs qu'avec les leaders de grandes démocraties.
Ah ben c'est clair, t'as deux.
Mais là,
on peut dire
c'est clair, c'est préoccupant un petit peu là.
Deux dictateurs.
Ben, t'as vu le lapsus de la présentatrice à Fox News.
Oui,
t'as parlé du sommet entre les deux dictateurs.
Ouais. C'est incontestable.
Ça veut tout dire.
Oui, et c'est ça, on l'a dit. Hein, quand quelqu'un, un chef dit, je suis en mesure de me gracier moi-même, là, on est vraiment proche d'une dictature. Mais bon, alors, qu'est-ce qui va arriver à ça? Le résultat le plus concret, mais là, moi, je parle, disons, en méconnaissance de cause, on peut se dire que à partir de cette entente-là, il y aurait sûrement, il y a déjà un rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ça, on l'a
mais
vu
en fait,
parce que
ce rapprochement-là, il était préalable au sommet avec Trump.
Ouais, mais il se poursuit.
Il
se poursuit selon une base qui est saine, c'est-à-dire enlever le nucléaire des Corées puis de la région et du Japon aussi. Fait que il risque d'y avoir, quelle que soit notre opinion de ceux qui le signent, il y a apparemment un progrès. Est-ce que ça va... En même temps, il y a une contradiction tellement flagrante dans le fait que les États-Unis se sont retirés de l'entente avec l'Iran, qui est une entente pour dénucléariser l'Iran, et les États-Unis se sont retirés de cette entente-là. Donc, il y a une contradiction flagrante, mais bon, on n'en est pas à une contradiction près avec le président Trump.
Mais donc, Kim Jong-un, lui... Il y a un côté de moi qui se dit qu'il doit être mort de rire quand même un matin. Là. Il doit se taper ses cuisses de l'ampleur du succès.
Écoute, il a réussi à forcer un sommet avec les États-Unis, la puissance
puis
mondiale.
Les drapeaux des deux pays, les États-Unis, Corée du Nord, Corée du Nord en alternance.
D'égal à égal, là.
Oui, puis les photos partout sur Terre aujourd'hui. Il n'y a pas un journal d'un pays qui n'a pas ça à la une, là, la poignée de main. Puis...
Tu sais, c'est pas une discussion avec l'intermédiaire, un rôle joué par la Chine. C'est notre petit despote lui-même qui rencontre le président américain.
Mais quand le petit despote manie la bombe nucléaire...
Il bombe le torse.
Il te force un petit peu le respect.
Mais en même temps, c'est ça qui est terrible. C'est le succès de ça.
Oui, mais comme l'entente porte sur le fait qu'il n'ait plus ce jouet-là entre les mains, tu peux dire jusqu'à un certain point, il a réussi un coup de force cette fois-ci. Mais en principe, le pays devrait redevenir un petit pays sur la scène internationale après avoir dénucléarisé la région.
La vraie affaire, là, c'est la réunification des deux Corées, là, en bout de ligne, là.
Oui, mais ça, ce que moi j'entendais, ce que je lisais, c'est...
Non, il y a plusieurs contraintes, là.
Il y a beaucoup de contraintes, parce que quand tu as un tel pouvoir consacré par une rencontre avec le président des États-Unis, est-ce que tu vas d'emblée souhaiter qu'il y ait une réunification de...
Mais c'est-à-dire que la réunification, comment tu garderais un rôle pour Kim Jong-un?
Et comment un dictateur peut-il accepter de renoncer au fait d'être un dictateur en s'alliant à une démocratie?
J'ai même vu l'hypothèse d'une fédération où il y aurait comme deux provinces, la Corée du Nord et la Corée du Sud, mais dans une Corée comme unifiée, et où donc la province de la Corée du Sud serait gérée par un gouvernement élu comme présentement, puis la province de la Corée du Nord. J'utilise le mot province, là, mais je veux dire deux États associés dans une fédération.
Une souveraineté associée.
Non, mais l'autre, non, mais l'autre, la Corée du Nord, serait gérée par, par la famille, par Kim Jong-un.
Puis est-ce que tu as une libre circulation des personnes?
Ben oui, parce que c'est ça le but. Mais entre autres, en Corée du Sud.
Ça va déborder en Corée du Sud, là.
Ben là, ben où la Corée du Sud va aller investir en Corée du Nord pour développer l'économie, parce qu'ils ont des ressources, puis tout ça, ils ont des richesses, mais c'est certain qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre importantes en Corée du Sud, puis ça pousse pour la... ça pousse pour l'unification. Il y a des pénuries de main-d'œuvre en Corée du Sud, t'as de la main-d'œuvre disponible, bread pauvre en Corée du Nord, qui est prêt à aller travailler, là.
Tout à fait, puis il y a des familles qui ont été divisées au moment de
cette guerre.
Quand
on voit la séparation des deux Corées, là, ceux qui sont partis communistes au Nord, puis ceux qui ont été capitalistes au Sud, là, ça nous fait une petite comparaison de la valeur des régimes, là. Le capitaliste semble avoir ses vertus.
Ouais. Mais tu peux regarder le Vietnam, tu sais, où il y a eu réunification des deux Vietnam. Puis, à mon sens, c'est toujours un régime socialiste. Les gens ont l'air d'y survivre assez allègrement aussi. Alors, tu sais...
On va s'arrêter là-dessus.
Oui.
Et on va parler d'éducation.
Tu sais que Churchill disait que le défaut inhérent au capitalisme, c'est la distribution inégale des richesses. Alors que... ce qui est inhérent au socialisme, c'est la redistribution équitable de la pauvreté.
Oui, il y a du vrai là-dedans.
On va s'arrêter là-dessus avant que tout le monde soit pauvre, si vous permettez, parce que l'employeur désire s'enrichir avec quelques pubs, et on vient après.
OK.
La 132.